simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Comment une révolution advient-elle? Des milliers de pages ont été noircies pour tenter de comprendre les mécanismes qui produisent les circonstances aboutissant au changement du cours de l'histoire. Elles peinent cependant à saisir ce qui est le cœur de l'événement. Car la révolution, c'est d'abord une aventure humaine. Il y a un siècle, les manifestations spontanées des ouvrières de Petrograd marquaient les prémices de la révolution russe. En quelques jours, le prolétariat de la capitale, qui, en pleine guerre mondiale, s'était porté à l'assaut de l'autocratie tsariste, jetait à bas l'un des régimes les plus tyranniques d'Europe. Durant 8 mois, malgré le développement à un rythme inégal, dans les villes, les campagnes et sur les milliers de kilomètres de front où combattaient les soldats, malgré les périodes de stabilisation, de reflux, ce mouvement ne devait pas s'arrêter. Le journaliste, poète et écrivain américain, John Reed, est à Petrograd quand éclate la révolution d'octobre 1917. Le récit qu'il livre de ces journées historiques, véritable épopée des temps modernes, plonge dans la déferlante révolutionnaire soviétique qui va bouleverser le XXe siècle. La révolution en direct donc, son ébullition, sa fébrilité, la détermination des bolcheviks, les idéaux, les erreurs de jugement aussi, le tumulte, la parole libérée en des joutes oratoires sans fin. La violence larvée, puis finalement bien présente, même si elle est plutôt laissée à l'arrière-plan dans le récit. La force particulière de John Reed est de nous entraîner au cœur des événements. Le plaisir, la complicité entrent en jeu, résonnant avec l'humour et l'ironie de John Reed, rejoignant sa compréhension des événements. L'auteur fait œuvre de poète, en restant à l'écoute des aspirations humaines fondamentales, comme ses camarades russes sur l'aide pour les revendications des ouvriers et des paysans russes, la paix, la terre, le contrôle ouvrier, la liberté. Né à Portland en 1887, John Reed, rejeton de la bourgeoisie américaine, découvre les idées socialistes au cours de ses études à Harvard. Diplômé en 1910, il se tourne alors vers le journalisme et s'engage en faveur des mouvements ouvriers. Après avoir suivi Pancho Villa durant la Révolution mexicaine, il se rend plusieurs fois en Europe et découvre la Russie en 1915. Farouchement opposé à la Première Guerre mondiale et au régime tsariste, il arrive à Petrograd avec son épouse Louise Bryant en septembre 1917 et assiste avec enthousiasme à la Révolution d'octobre. Après avoir contribué à la naissance du Communist Labour Party aux États-Unis, il retourne en Russie fin 1919 pour participer aux activités de l'Internationale communiste. Victime du typhus en 1920 à l'âge de 32 ans, il est enterré sur la place Rouge de Moscou, dans la nécropole du mur du Kremlin, aux côtés des révolutionnaires de 1917 dont il avait décrit le combat. En 2017, Michel Sidorov réalisait une adaptation radiophonique de son ouvrage le plus célèbre, 10 jours qui ébranlèrent le monde. C'est ce feuilleton que nous proposons aux auditeurs de l'Égrégore, une série en 10 épisodes. Pour se rappeler, en reprenant les mots de Paul Matic, que la révolution est une belle aventure. Épisode 1. Un projet compromis par la police de New York. John Reed réussira-t-il à écrire 10 jours qui ébranlèrent le monde ? De retour de Russie, John voit ses bagages confisqués par la police de New York. Elle lui reproche de vouloir s'atteler à des activités subversives en introduisant sur le territoire américain de la propagande communiste.
Merci, sergent. Vous pouvez continuer à examiner les bagages, monsieur Reed. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Des affiches. Elles étaient sur un mur de Petrograd. Impossible de décoller la première sans arracher tout le paquet.
Vous lisez le russe. Traduisez-moi l'affiche de dessus.
Merci à Flast. Zavietam rabochi, soldati christian, mira, chleba, zimli. C'est la première page du journal d'Iéné, Le Jour. Le titre dit « Tout le pouvoir aux soviets d'ouvriers, de soldats, de paysans, la paix, le pain, la terre ». C'est signé par Zinoviev. Tout ouvrier, tout soldat, tout vrai socialiste, tout démocrate honnête se rend compte qu'il n'y a, dans la situation actuelle, qu'une alternative. Ou bien le pouvoir restera dans les mains de la clique des bourgeois et des propriétaires fonciers, et cela signifiera toutes les formes de répression contre les ouvriers, les soldats, les paysans, et la poursuite de la guerre, l'inévitable famine et la mort. Ou bien le pouvoir passera aux mains des ouvriers révolutionnaires...
Bien, bien, ce n'est pas moi que vous allez endoctriner.
Mais vous m'avez demandé de lire ce que disait cette affiche.
Monsieur Reed, vous êtes toujours sous l'effet d'une enquête concernant vos activités anti-américaines. Vous arrivez de Russie bolchevique et vous introduisez probablement sur le sol de notre pays de la propagande révolutionnaire. Vous êtes un communiste.
Je suis journaliste et écrivain. J'ai besoin de cette documentation pour écrire un livre. Je n'ai pas été condamné par vos tribunaux avant mon départ pour la Russie en août 1917. Vous ne pouvez pas m'arrêter.
Pas vous arrêter peut-être, mais vous empêcher de diffuser en Amérique le poison communiste. Le poison qui aurait pu infecter l'esprit de nombreux soldats américains si nos ligues de citoyens patriotes n'y avaient mis bon ordre.
Par exemple, en brûlant les locaux d'organisations d'ouvriers ou de sections du Parti Socialiste Américain ?
Uniquement des sections qui étaient hostiles à la guerre contre Guillaume II.
Vous êtes bigrement au courant ? Quel aveu ?
Monsieur Reed, c'est de votre futur procès qu'il s'agit, et non du mien. Je regrette que vous ayez échappé aux tranchées de Lorraine. Et que la patrie soit obligée de s'occuper de votre sort à présent.
Si je n'avais pas subi l'ablation d'un rein, et si j'avais été mobilisé, j'aurais continué à expliquer que cette guerre n'était pas celle des travailleurs, mais celle des capitalistes.
Et on vous aurait fusillé pour mutinerie, comme tous vos amis français. Les communistes, les anarchistes.
Bah, attention ! Vous allez les déchirer, il faut les humidifier. J'ai besoin de ces documents. J'ai là collé ensemble les déclarations en tract d'au moins 10 jours de révolution et aussi de contre-révolution. Vous n'avez pas le droit de détruire un matériel historique.
Et c'est bon, monsieur Reed. Demain, vous serez convoqué au tribunal. Vous pouvez disposer. Nous conservons la malle qui contient tous vos documents.
Hé, taxi !
Ça comme bagage ?
Ben oui, j'en ai laissé une partie à la consigne. Je reviendrai plus tard, c'est sûr.
Vous avez l'air convaincu. Notez, heureusement pour vous et vos bagages.
Mes petits carnets. Quand je leur ai dit, ce sont mes pensées intimes que je réserve pour un ami pasteur, ils n'ont pas osé y toucher. Toujours invoquer la religion avec les flics dans ce pays. Et puis prendre des notes à la vitesse où je les prends, ça ne favorise pas la clarté de l'écriture. Pas besoin de codage. Voyons. Pour mon chapitre Le Grand Soir, je dois continuer à décrire l'évolution de la situation révolutionnaire dans les jours qui ont précédé le soir du 6 novembre. Enfin, je parle du 24 octobre. Pour tous ceux qui sont restés attachés au calendrier julien, le calendrier des tsars hérité de Byzance. Ah, le 2 novembre, c'est-à-dire le 20 octobre, je m'étais rendu comme presque chaque jour à l'Institut Smolny où siégeait le comité central des soviets, élu il y a 6 mois et complètement caduque. Mais l'ancienne majorité menchévique avait été obligée de convoquer le congrès panrusse des soviets d'ouvriers et de soldats pour le 7 novembre, le 25 octobre. Smolny était bien gardé par des soldats de la garnison de Petrograd. Il fallait justifier de son identité et de son occupation. Ces mesures étaient destinées à limiter l'entrée d'espions au service de la police ou de gouvernements étrangers. Toute cette organisation qu'il avait fallu improviser donnait souvent lieu à des scènes cocasses.
Un, deux, trois, quatre, stop camarades, pas plus de quatre à la fois. Vous allez vous placer à la suite de la file d'attente dans la cour pour le contrôle.
I'm happy we got through.
Yes, my dear.
Carte d'identité, laissez-passer.
Désolé, je ne retrouve pas ma carte.
Tu es sûr, Léo? Cherche bien. Ah, tu l'as peut-être oublié chez Soukhanov?
Natalia, je suis vraiment débordé et je ne dors pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. Mon nom est Trotsky.
Vous n'avez pas de carte, vous ne pouvez pas entrer. Les noms, ça m'est égal.
Mais je suis le président du soviet de Petrograd.
Eh bien, si vous êtes un type si important, vous devez bien avoir sous vous un papier quelconque.
Laissez-moi voir le commandant.
J'appelle mon chef, подождите.
Товарищ командир.
Да.
Тут проблема с товарищем.
Que se passe-t-il?
Mon nom est Trotsky.
Trotsky. Il me semble bien avoir entendu ce nom-là. Je suppose que ça va, vous pouvez entrer, camarade.
Мне нравится этот ход.
Проходите.
Спасибо.
Ну, видишь, как хорошо, как я тебя не узнаю. Правда, дорогой?
Monsieur Trotsky.
Permettez-moi de me présenter, John Silas Reed, écrivain et journaliste, membre du Parti Socialiste Américain, et Louise Bryant, écrivain et aussi ma compagne.
Enchanté. Mon épouse, Natalia.
Bonjour.
J'ai entendu parler de vous, Monsieur Reed, en particulier à propos de ce que vous avez écrit sur la révolution mexicaine et pour ce que vous avez fait en faveur des syndicalistes de l'IWW en 1913 pendant la grève de Patterson.
Industrial Workers of the World, yes. Très honoré. Je suis de très près l'avancement de vos idées dans les organisations des soviets et parmi les soldats de la garnison. M'accorderiez-vous un entretien sur la situation révolutionnaire en Russie et vos pronostics?
Oui, mais pas dans ce couloir. Je dois rejoindre la réunion du bureau du soviet de Petrograd. Sinon, son président sera très mal vu. Même s'il est important d'avoir des échanges avec des journalistes américains qui sympathisent avec notre révolution. Car je suppose que madame est aussi socialiste.
Pour ne rien vous cacher, je sympathise avec la politique des bolcheviks que j'admire, même si j'ai longtemps cru aux idées anarchistes. Dans les soviets, je vois la réalisation de l'idéal de démocratie directe.
Dans cet institut, à tous les étages, vous trouverez beaucoup de gens qui ont d'abord cru à l'anarchisme. Cela a été un cheminement classique pour de nombreux militants russes.
Nous sommes convaincus qu'au bout du chemin, certes très difficile, il y a la liberté. Lors du contrôle, nous avons eu un aperçu de l'esprit démocratique, dépourvu désormais de toute déférence envers les personnalités qui animent le peuple russe. Voici le camarade Lev Mikhailovitch Karakhan. Il pourra vous parler aussi bien que moi du rôle des soviets. Lev n'est pas membre du comité central du parti, mais c'est un militant solide et qui était encore menchevique au mois de mai. Lev Mikhailovitch, si tu as un moment, peux-tu exposer à ses camarades américains notre vision du pouvoir des soviets? Ils parlent et comprennent le russe. Et tu es meilleur en anglais que moi.
Avec plaisir. Montons dans le petit bureau de la section arménienne du parti.
Monsieur Reed, je vous laisse organiser un rendez-vous avec le camarade Karakhan. Madame Bryant sera la bienvenue.
Comment voyez-vous le nouveau gouvernement ?
Je le vois comme une organisation souple, à l'écoute de la volonté populaire telle qu'elle s'exprime dans les soviets, et accordant aux forces locales toute liberté de jeu. Actuellement, le gouvernement provisoire étouffe les volontés démocratiques locales, au même degré que le gouvernement tsariste. Dans la nouvelle société, l'initiative viendra d'en bas.
Et la forme de ce futur gouvernement, à quoi ressemblera-t-elle ?
La forme du gouvernement se modèlera sur la constitution du Parti ouvrier social-démocrate russe. Le nouveau ЦИК...
Центральный исполнительный комитет.
Молодчина. En développé, Всероссийский центральный исполнительный комитет советов рабочих и солдатских депутатов. Comité central des députés des soviets d'ouvriers et de soldats de toute la Russie. Oui, je disais, le nouveau ЦИК... responsable devant les assemblées, fréquemment convoquées, du Congrès pan-russe des soviets, sera le Parlement. À la tête des divers ministères, il y aura, au lieu de ministres, des directions collégiales, des commissions, qui seront directement responsables devant les soviets.
Depuis un mois, il existe le Comité militaire révolutionnaire. Nous avons pu assister à des réunions de soldats au moment de sa constitution. C'est un organisme remarquable. Comment son action peut-elle s'articuler sur la préparation du Congrès des Soviets ?
Je ne suis pas membre de ce comité. Il faudrait que vous voyiez les camarades Antonov ou Krylenko. Ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Le Comité militaire révolutionnaire est un organisme provisoire créé au moment où le gouvernement provisoire et Kerensky projetaient d'envoyer la garnison de Petrograd au front. Ce qui aurait permis toutes les actions contre-révolutionnaires de la part du parti bourgeois cadet et de l'extrême droite des sangs noirs. Les troupes allemandes, elles aussi, auraient pu intervenir. Elles ne sont pas loin.
Camarade Lev Mikhailovitch, auriez-vous un peu de temps à consacrer à deux autres camarades américains, Bill Chatov et Albert Rhys-Williams ?
Je connais déjà Bill Chatov. Il est anarcho-syndicaliste, mais très proche de nos idées. Dites-leur qu'ils sont les bienvenus à Smolny. Et voyons quand nous pouvons organiser votre rendez-vous avec le camarade Léon Trotsky.
Bon sang, j'ai pas la suite. Les sales flics. Tout est dans la malle qu'ils m'ont confisqué. Louise a dû prendre des notes lors de notre rendez-vous avec Trotsky.
Vous êtes arrivés, sœur. Elles sont vraiment tordues, toutes ces rues de Greenwich Village.
Eastman m'avait prévenu de ton retour imminent, mais impossible de connaître le jour. Ça n'a pas dû être facile.
Un mois à attendre à Christiania, après Stockholm. Le consulat américain ne voulait pas me délivrer de visa. Heureusement que tu as pu embarquer avant moi.
Montre-moi ton visage. Tu as l'air fatigué. Je te fais un café.
Ils m'ont confisqué mes documents à la police du port. C'est une catastrophe. Il faut tirer toutes les sonnettes pour les récupérer.
Pour moi, ça a été plus facile. Ils m'ont rien pris. Je suis un peu moins en vue que toi. J'ai pas mal de documents. Je m'en sers pour écrire mon livre sur la révolution d'octobre. J'ai déjà choisi le titre. 6 mois rouges en Russie.
6 red months in Russia. 6 mois rouges en Russie. Très joli.
Tu pourras puiser dans mes notes en attendant de retrouver les tiennes.
Des notes, j'en ai quelques-unes dans mes petits carnets, mais j'ai besoin des tracts, des déclarations, des brochures. Par exemple, je lisais à Petrograd les thèses d'avril de Lénine.
Voilà que tu te mets à lire les textes théoriques.
C'est Bill à Petrograd qui m'a poussé à le faire. Je ne peux pas défendre une orientation bolchévique parmi nos amis socialistes sans me documenter à présent.
Quel sérieux!
Et dans le taxi, je relisais mes notes sur l'entrevue avec Karakhan. Tu te souviens?
Très bien. Un homme charmant, parlant plusieurs langues. Il est déjà diplomate du nouvel état.
Il nous avait ménagé un rendez-vous avec Trotsky. Mais les notes sont dans la malle, au commissariat.
J'étais là avec toi, et j'ai tout noté. J'ai ça sur mon bureau. Tu veux pas te reposer?
Non, pas maintenant. Je veux pas perdre le fil.
Comme tu voudras. Tu te crois infatigable. Ah, j'ai là aussi mes notes sur la garnison de Petrograd. Ça t'intéresse?
Au combien? Je dois placer ces événements avant l'entrevue avec Trotsky.
Tu m'inquiètes.
Tu es si tendre. Comme tu es fine. Une vraie liane.
Une liane qui s'enroule autour de toi.
Louise. C'était si long sans toi.
Laisse-toi faire. Tu travailleras après. Puis nous irons dîner au Poli, où nous pourrons retrouver Max Eastman.
L'écriture d'une femme. Voyons. Chronologie de la création du comité militaire révolutionnaire. Première semaine d'octobre, crainte partout dans la ville d'une offensive ennemie contre Petrograd. Le 9 octobre, sur ordre de Kerensky, le général Tcheremissov et le général Polkovnikov décident d'organiser le départ de la garnison vers le nord. Prétexte, protéger la capitale d'une attaque allemande. Ah, je me souviens, il y avait un meeting à la forteresse Pierre-et-Paul. J'étais là, avec Louise et Bill Chatov.
Одно из двух. Правительство, не способное оборонить столицу, должно либо заключить...
Si vous n'êtes pas capable... de défendre la capitale, faites la paix. Si vous ne pouvez pas faire la paix, fichez le camp et laissez la place à un gouvernement du peuple qui saura faire et l'un et l'autre.
Essayons de nous approcher.
John, le meeting est réservé aux militaires.
Et les soldats ne font pas attention à nous, ils sont captivés par les orateurs.
Fraternisé en mars avec les ouvriers en lutte pour la journée de 8 heures. C'est nous! Souvenez-vous, camarades, les officiers voulaient nous dresser contre les ouvriers pour les briser et pour nous faire accepter la boucherie impérialiste. Et qui a protégé les ouvriers de Petrograd contre les milices patronales, contre les sangs noirs qui assassinaient les frères juifs?
C'est nous!
Qui a mis en déroute Kornilov il y a un mois, alors qu'il menaçait la capitale et notre révolution? Qui a remis les armes aux ouvriers gardes rouges et leur a appris à s'en servir?
C'est nous!
Oui, ce sont les camarades bolcheviques qui nous ont appelés à écraser Kornilov. Mais c'est Kerensky, avec ses SR et ses mencheviks, tous ces faux socialistes qui avaient réveillé Kornilov. Il avait rétabli la peine de mort. Combien d'entre nous sont morts fusillés alors parce qu'ils étaient bolcheviques? Oui, je suis bolchevique et je suis fier d'être un combattant de la révolution.
Hurrah!
Camarades, j'arrive du front.
Давай войну!
Давай войну! Давай!
situation est atroce. Oui, nous crevons dans la boue et dans le froid. Oui, nous avons besoin de renforts. En attendant qu'un gouvernement du peuple arrête cette guerre. Mais il importe encore plus de savoir Petrograd et la révolution bien gardée. Vous, camarades, tenez l'arrière. Nous tenons le front.
John, quelle surprise.
John, Louise.
Vous voilà réunis. Mon cher Max, toutes ces années passées à militer, et nos procès, nos batailles...
Et ça continue, tu es convoqué au tribunal demain pour répondre de l'accusation de conspiration avec tous les camarades de notre revue.
Oui. La convocation était chez moi pour mon arrivée, et les flics ont trouvé là un prétexte pour me confisquer mes documents. Si tu connais un moyen de les récupérer. Tu crois que notre revue m'assise est sérieusement menacée?
Bah, s'ils l'interdisent, nous en créerons une autre. Je réfléchis déjà à d'autres titres, comme le Liberator.
Le gouvernement américain a envoyé un corps expéditionnaire pour soutenir les armées blanches qui organisent la guerre civile, avec Denikin et les troupes françaises de Wrangel. Nous sommes visés dorénavant comme des ennemis de l'armée américaine. Des antipatriotes, comme en 17, lorsque nous dénoncions l'entrée en guerre des États-Unis.
J'ai confiance dans la classe ouvrière américaine. Elle nous soutiendra. Les ouvriers ont trop souffert de la barbarie des tranchées, eux aussi. Je ne pense pas qu'ils portent les généraux dans leur cœur.
Pourtant, quel contraste avec la Russie révolutionnaire. J'avais oublié qu'on donnait un pourboire dans les restaurants. Les garçons d'hôtels et de restaurants s'étaient organisés en syndicats dès le mois de février 17. Même les cochers et les izvotchiks avaient leur syndicat. Et ils étaient représentés au Soviet de Petrograd. Police, nous l'aimons bien, ce restaurant. Et il n'est pas trop bourgeois. Mais quand donc on lira sur les murs ici, les pourboires ne sont pas acceptés. Ou ce n'est pas parce qu'un homme est obligé de gagner sa vie en servant les autres à table qu'il faut l'insulter en lui offrant un pourboire.
J'en suis témoin. Tout cela existait depuis plusieurs mois quand nous sommes arrivés début septembre 17. Même chez les plus démunis, le niveau de réflexion se situait très haut. Dans un pays qui avait été longtemps victime de l'analphabétisme, on avait l'impression que toute la Russie apprenait à lire.
La Russie absorbait, insatiable. Elle absorbait toute cette littérature comme le sable chaud absorbe l'eau. Et pas seulement des romances, de l'histoire falsifiée, de la religion diluée ou cette littérature à bon marché qui abrutit, mais des théories économiques et sociales, de la philosophie, les œuvres de Tolstoï, de Gogol, de Gorki. Si un travailleur américain réussit à apprendre le dixième de ce que ses camarades russes ont appris, l'Amérique basculera facilement dans le socialisme. Je donnerai tous les éléments pour comprendre d'où est venu l'orage, l'exploitation, le militarisme. Je crois que cela parlera aux ouvriers américains. Et puis je raconterai, jour par jour, en tout cas les premiers jours de la Révolution, où il s'est produit plus de bouleversements pour le monde entier que dans un siècle.
Et comment s'appellera ton livre ?
10 jours qui ébranlèrent le monde.
Épisode 2. À bas la guerre. À l'Institut Smolny, John Reed et Louise Bryant s'entretiennent avec Léon Trotsky. Celui-ci lui expose sa vision de la situation à la mi-octobre et lui décrit le rôle des bolcheviks contre la guerre. John expose son récit à Eugene Debs, le syndicaliste américain, lui-même engagé contre l'entrée en guerre des États-Unis.
Ten days that shook the world. What a title! Et tu les fais commencer quand, tes 10 jours?
Le 25 octobre, c'est-à-dire le 7 novembre, dans notre calendrier grégorien. Depuis, le gouvernement soviétique a abandonné le vieux calendrier julien, celui des tsars et des empereurs de Byzance. Mais pour beaucoup de gens, il s'agit toujours de la révolution d'octobre. Et je pense que cela restera longtemps dans les mémoires. Le 24 octobre, c'est ce que j'appelle le grand soir.
Celui de la prise du palais d'hiver.
Le palais n'a été pris que tard dans la journée du 25 octobre. Mais dans la nuit précédente, et aussi dans les jours précédents, des secteurs clés du pouvoir ont été pris par les ouvriers et les soldats bolcheviques. La poste centrale, toutes les forteresses, à commencer par la forteresse Pierre et Paul, et puis le central téléphonique. Le téléphone, c'était vital pour la révolution. Ils ont aussi neutralisé les élèves officiers, les Junkers, qui tentaient de contrôler les ponts mobiles, entre le quartier ouvrier de Viborg et le centre de Petrograd.
J'ai entendu parler de comités militaires révolutionnaires où il y avait des bolcheviks, des anarchistes et des SR de gauche. J'imagine qu'il ne s'est pas formé en un jour.
Exact. Il s'est formé officiellement le 12 octobre, au cours d'une réunion du comité exécutif du Soviet de Petrograd. Le 16, Léon Trotsky a proposé au cours d'une réunion publique de nuit que le comité militaire révolutionnaire soit reconnu officiellement comme l'instrument militaire du Soviet. Et quand je rencontrais Trotsky ce même jour, il savait exactement où la révolution en était et ce qu'il était possible de faire.
Tu as discuté avec Trotsky ?
Tu sais, il s'intéresse beaucoup aux syndicalistes révolutionnaires de chez nous, les IWW, aux socialistes de gauche, comme toi, qui ont refusé la guerre impérialiste.
Lui et ses camarades vont pouvoir mener campagne pour moi.
Je suis au courant. Ils t'ont arrêté à Cleveland après ton discours contre la guerre. Toute la classe ouvrière américaine a les yeux rivés sur toi.
Ils m'ont condamné à 10 ans de pénitencier. Mais j'ai fait appel et tu vois, je suis là, à Terre Haute, Indiana, ma ville natale.
Oui, Jean, tu es là. Mais pour combien de temps? Et ce n'est pas en prison que tu pourras soigner tes poumons. Faire ça à un homme de 63 ans. Ah, monsieur Reed, si j'avais pu faire passer Jean au Canada ou au Mexique.
Je dirai au juge droit dans les yeux, tant qu'il y aura un homme en prison dans ce pays, Eugene Victor Debs ne pourra être libre. Alors je ne crains pas vos prisons.
C'est très beau, Jean. Tout le monde sera ému. Mais la machine de l'État fédéral te passera dessus. Les camarades russes, eux, ils l'ont détruite, cette machine, à ce qui paraît. J'ai commencé à lire les articles de M. Reed dans le Liberator.
Moi aussi, Suzanne. Mais j'ai peur des révolutions violentes. En même temps, je cherche à comprendre ce qui se passe en Russie, parce que je sais bien que le socialisme progresse en Amérique et que les ouvriers regardent vers l'Est. Personne n'a encore raconté pour les ouvriers américains ce qui s'est passé là-bas. On subit une telle avalanche de mensonges sur la révolution d'octobre. Moi-même, je ne sais pas vraiment ce que je dois en penser. Je suis vieux, je n'aurai sûrement pas l'occasion d'aller là-bas. Raconte-en, c'était où votre rencontre?
À l'Institut Smolny, une ancienne école pour jeunes filles de l'aristocratie. Les bolcheviks y ont leur quartier général. Trotsky nous a reçus dans une petite pièce sous les combles de l'Institut.
Reprenez encore un peu de thé, Miss Bryant. Ce samovar est bien notre seul luxe dans ces bureaux poussiéreux.
Merci, Lev Davidovitch. Et merci de prendre tout ce temps pour nous recevoir, moi et John.
Ce n'est pas du temps perdu. Vous compterez dans votre pays ce que vous avez vu ici, comment le prolétariat et le peuple se sont dressés pour la prise du pouvoir. Et cela aura une importance capitale dans ce qui va devenir la première puissance capitaliste mondiale.
Grâce à la guerre.
Oui, la guerre impérialiste qui redistribue les cartes entre les grandes puissances. L'Angleterre passe derrière les États-Unis.
Aux États-Unis, nous avons milité contre l'intervention. Mais il était trop tôt pour déclencher une révolte générale des ouvriers américains contre la guerre. En Russie, nous assistons à la transformation de la guerre impérialiste en révolution.
Il a fallu réunir plusieurs conditions, bien entendu. Et on peut résumer les choses en disant que d'un côté, la misère, les privations, les morts par centaines de milliers ont rendu l'existence impossible à supporter plus longtemps pour les masses. Et de l'autre côté, l'impossibilité de réprimer les masses efficacement de détourner leur énergie révolutionnaire, d'imposer un compromis avantageux pour les capitalistes, a conduit à accepter un début de modification du régime politique, avec l'abdication du tsar et la formation de ce gouvernement provisoire, qui n'en finit plus de durer.
Pour des témoins étrangers comme nous, et qui plus est venant d'un pays démocratique, enfin démocratique bourgeois, c'est-à-dire avec un minimum d'apparence démocratique, il est étonnant de constater chez les ministres du gouvernement provisoire l'incapacité, ou le refus foncier, je ne sais, de lancer un processus démocratique bourgeois d'assemblée constituante. Ils s'abritent derrière la Douma, qui n'est que l'assemblée octroyée par le tsar, une assemblée sans pouvoir.
Une assemblée croupion, aurait dit Marx. Comme il l'écrivit pour l'assemblée de Napoléon III après le coup d'État du 2 décembre 1851. Et cela vaut pour toutes les assemblées soumises à un prince-président.
Si vous me permettez une remarque, camarade Trotsky, nous sommes loin d'un prince-président avec le premier ministre Kerensky.
J'approuve entièrement votre observation, Mr. Reed. Kerensky, représentant typique du caractère petit-bourgeois et finalement réactionnaire du Parti socialiste révolutionnaire, est une marionnette, incapable de mener à bien la mission de domestiquer les masses. Le gouvernement provisoire est absolument impuissant. En réalité, c'est la bourgeoisie qui est au pouvoir. Mais cela est masqué par une coalition fictive avec les partis jusqu'au boutiste.
Par jusqu'au boutiste, vous entendez ceux qui sont partisans de la continuation de la guerre, c'est bien ça?
Exact. En face de cette coalition entre partis se présentant comme socialistes, SR, Menchevik, Menchevik internationaliste et SR de gauche, et jusqu'au boutiste, principalement les cadets, en face de ce conglomérat réactionnaire, les paysans, fatigués d'attendre les terres qu'on leur a promises, se rebellent. Et par tout le pays, dans toutes les classes laborieuses, le même dégoût apparaît. La domination de la bourgeoisie ne peut se maintenir que par la guerre civile. La méthode de Kornilov est la seule qui pourrait lui assurer le pouvoir.
Nous sommes arrivés à Petrograd après la défaite du général Kornilov en août. Aujourd'hui, vous expliquez partout que le premier ministre Kerensky cherche un nouveau Kornilov. Pourtant, il a appelé à la lutte contre la tentative de coup d'état du général.
Il ne l'a fait qu'au dernier moment, quand son propre pouvoir était menacé par le regroupement des monarchistes derrière Kornilov. Mais au départ, fin juillet 17, Kerensky a appelé Kornilov au secours pour trouver un moyen d'écraser dans le sang les ouvriers, les paysans et les soldats révoltés contre la guerre et l'exploitation. Nous, bolcheviks, avons appelé à la mobilisation contre Kornilov tout en refusant de soutenir le gouvernement provisoire, donc en demeurant indépendants politiquement. Certains de nos militants ont pu être libérés des prisons où ils croupissaient depuis les manifestations de juillet et furent les meilleurs organisateurs de la victoire contre Kornilov. Au lieu de nous affaiblir, la tentative de coup d'état de Kornilov nous a renforcés.
Il faudra expliquer partout. En Amérique et ailleurs, l'origine des mots menchevik et bolchevik. Aujourd'hui, on cherche à faire peur avec le mot bolchevik. Le camarade Chatov m'a expliqué la chose suivante. En 1903, au cours d'un congrès du Parti ouvrier social-démocrate russe, deux orientations s'opposaient dans la rédaction des statuts. Celle de Martov, qui définissait comme membre du parti toute personne qui agissait sous la direction du parti, sans préciser en quoi consistait cette action, et celle de Lénine, pour qui celui ou celle qui contribuait à la construction d'une ou des organisations du parti était considéré comme membre.
Et Lénine ajoutait que le fait de payer ses cotisations était la base minimum de l'adhésion. Lénine et ses partisans eurent la majorité. Ils avaient plus de voix, c'est-à-dire « bolché » en russe. Martov en eut moins, c'est-à-dire « menché ». Les fractions devinrent de ce jour « menchevik » et « bolchevik ». C'est la question des frontières du parti, comme pour un syndicat ou un club après tout. Cela peut sembler clair aujourd'hui, mais l'atmosphère passionnelle et plutôt verbeuse de l'époque pouvait obscurcir la compréhension. Moi-même, j'ai longtemps cru, avec ma fraction politique particulière, les groupes interrayons, qu'il était possible de rapprocher menchevik et bolchevik, même si je me rapprochais de plus en plus de Lénine, en particulier dans la lutte contre la guerre, avec les conférences internationales de Zimmerwald et de Quintal, en Suisse. Ce sont les thèses d'Avril de Lénine qui m'ont définitivement rapproché du parti bolchevique et m'ont décidé à adhérer en mai 17. Lénine m'a immédiatement fait entrer au comité central, avec mes camarades.
Quelles seront les premières mesures du gouvernement des soviets ?
Notre premier acte sera l'armistice immédiat sur tous les fronts et une conférence des peuples pour discuter les termes d'une paix démocratique. La paix que nous obtiendrons sera d'autant plus démocratique que l'esprit révolutionnaire sera plus réveillé en Europe. Nous tablons sur cette possibilité parce que le gouvernement des soviets s'adressera directement, sans intermédiaire, à tous les peuples pour leur proposer un armistice. Dans la conclusion de la paix, la Russie révolutionnaire aura comme principe directeur pas d'annexion, pas d'indemnité, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, création de la République fédérative européenne.
Par quels moyens cette Europe-là pourrait-elle voir le jour ?
Au sortir de cette guerre atroce, l'Europe ne peut pas être régénérée par les diplomates, mais par le prolétariat. La République fédérative européenne. Les États-Unis d'Europe. Voilà ce qui doit advenir. L'autonomie nationale ne peut plus suffire. L'évolution économique exige l'abolition des frontières nationales. Si l'Europe reste morcelée en groupements nationaux, l'impérialisme se remettra à l'œuvre avec les guerres et la barbarie. Seule une république fédérative européenne, dirigée par le prolétariat, donnera la paix au monde.
Peut-être alors les États-Unis d'Amérique retrouveront-ils le souffle originel de la Révolution, celle de 1776. Car pour l'instant, les sociétés comme les filles et fils de la Révolution américaine sont les meilleurs soutiens de la politique de guerre de notre gouvernement.
Ton Léon Trotsky ouvre des perspectives, je le reconnais, mais les gouvernements européens tiennent à la guerre. Et les trusts de l'armement, qui n'ont pas de frontières, contrôlent les gouvernements.
Ce jour-là, Trotsky a ajouté « Mais sans l'entrée en action des masses européennes, ces buts ne pourront être atteints dès maintenant. »
Les masses, elles sont dans les tranchées, assommées par la propagande patriotique. Et puis, il y a tous ces morts, tous ces mutilés, ces hommes gazés ou brûlés. Beaucoup sont devenus fous après les combats. Qui pourrait bien les éclairer, les guider ? Jaurès a été assassiné, c'était bien calculé. C'est comme ici, écoute, ils font défiler les fanfares. Ils ont créé des milices patriotiques. Les locaux de partis socialistes américains ont été parfois brûlés et des militants anti-guerre ont été lynchés.
Cela me rappelle le jour de mon procès, pour mon article dans le Liberator.
Oh, je n'ai pas oublié, le titre était « Procure-toi une camisole de force pour ton fils soldat ».
Le procureur avait réuni des jurés patriotes. Il avait même installé sous les fenêtres du tribunal un orchestre qui jouait des hymnes nationaux pendant tout le temps des délibérations. Mais quand j'ai décrit les horreurs de la guerre, certains de ces jurés, des petits bourgeois réactionnaires pourtant, se sont mis à pleurer.
Et tu as été acquitté avec tes camarades de Liberator. J'avais suivi tout ça. Il faut dire que lorsque tu prends la parole, tu as l'art d'emmener ton auditoire.
Pas plus que toi, Jean.
On ne va pas s'auto-congratuler comme ça. Allons faire un tour dans les rues. Le soleil me fera du bien. Et puis, c'est 4 juillet, Independence Day.
Ce n'est pas prudent, Jean. Tu as reçu des menaces de mort depuis le procès. Tu sais bien.
Pour la plupart des gens ici à Terre Haute, je suis toujours le responsable syndical qu'ils ont écouté. Ce n'est pas quelques voyous déguisés en patriotes qui vont m'impressionner. Allons-y, John.
Cette tournée est fatigante. Après Philadelphie, où j'ai été arrêté, et puis Cleveland, ça commence à faire pas mal d'interrogatoires et de menaces. Et à Detroit, où je tenais un meeting contre la guerre, la police a arrêté 200 personnes. Dans 3 jours, c'est le procès des syndicalistes des IWW. 101 inculpés, accusés de sabotage, de sédition et de conspiration. Le Liberator attend mon article. Mais je prends le temps de m'arrêter à New York et de retrouver Louise. J'ai commencé un poème pour elle.
Tu as vu le vieux Debs ?
Ouais. Le jour de l'indépendance. Il reste opposé farouchement à la guerre et il n'a pas peur de la prison. J'espère qu'il y échappera parce qu'il est mal en point. Dans le train, j'ai rédigé un article pour le Liberator. With Gene Debs on the force.
Albert Rhys Williams a écrit. Il demande quand nous revenons à Petrograd. Il nous envoie aussi quelques pages du livre qu'il écrit sur la Révolution. Tu te souviens de la rencontre avec les familles de soldats ? Lis ça. C'est très émouvant.
Ah oui, je me souviens. Nous avions retrouvé Albert Rhys Williams, qui avait déjà organisé une tournée dans la Russie profonde.
Pendant l'été de 1917, je parcourus toute la Russie. De tous côtés s'élevaient les lamentations d'un peuple désolé. Partout où je vis
l'empreinte et les ravages de la guerre.
En Ukraine,
nous nous arrêtâmes à un petit village dans une vallée, et environ 300 femmes, 40 vieillards et petits garçons, et une vingtaine de soldats mutilés s'attroupèrent autour de notre wagon.
Je me souviens de la question de Williams. C'était très direct.
Qui d'entre vous a perdu quelqu'un à la guerre ?
Une lamentation passa sur cette foule joyeuse. Deux vieux paysans tombèrent en sanglotant contre les roues du wagon, secouant la plateforme. Un garçon s'écarta de la foule en pleurant « Mon frère, ils ont tué mon frère !» Et les femmes, abaissant leurs platox sur leurs yeux, ou dans les bras les unes des autres, pleurèrent. Qui aurait pu supposer que derrière ces figures placides, il y avait tant de douleurs ? Ce n'était pourtant qu'un des milliers de villages russes que la guerre avait dépouillés de tous les hommes valides. C'était un des innombrables villages où revenaient les blessés mutilés, sans yeux, sans bras. Des milliers ne reviendraient jamais. Ils étaient couchés dans cette grande tombe qui s'étendait sur 1500 milles, de la mer Noire à la Baltique, le front russe contre le front allemand.
Je vais reprendre tes notes sur les réunions où nous étions ensemble. Il faut que je raconte comment les choses se sont passées dans le soviet de Petrograd à partir du 16 octobre.
Max Eastman a tiré toutes les sonnettes pour que tu puisses récupérer les documents confisqués par la police. Il a bon espoir.
Mais tant mieux. De toute façon, entre ton livre sur la Révolution et les articles que je fais passer dans le Liberator, il y a déjà de quoi désespérer toute la droite nationaliste américaine. Tiens, je t'ai écrit une petite lettre en forme de poème.
Oh, chérie. Rainy rush of birdsong, apple blossom smoke, thin bells water falling sound, wind rust on the silver pond, furry starring willow wand, one new grasses waking round, bluebird in the oak, woven in my word song. White and slim, my lover, birch tree in the shade.
Tout le long du front, sur plus d'un millier de kilomètres, les millions d'hommes des armées russes s'agitaient, pareils aux flots montants, et déversaient sur la capitale des centaines et des centaines de délégations qui n'avaient qu'un cri. La paix. La paix. Je traversais la Neva pour me rendre au cirque moderne à un de ces grands meetings populaires. Comme il s'en tenait par toute la ville, et dont le nombre augmentait chaque nuit.
J'apporte des nouvelles alarmantes sur la situation de nos frères soldats qui ont été envoyés en France. Comme on le sait, le tsar les avait vendus contre de vieux fusils pour servir de chair à canon en Champagne et en Ardennes. La première brigade avait demandé à rentrer au pays. Elle ne reconnaissait plus ses officiers et refusait de participer à la boucherie. Eh bien, le gouvernement français, complice de Kerensky, a fait enfermer la brigade au camp de la Courtine et l'a bombardée il y a quelques jours. Il y a probablement des centaines de morts. Tous les autres sont emprisonnés ou envoyés au travail forcé. En Algérie. Pourvu qu'ils aident les pauvres Algériens à se révolter contre les colonialistes français. À bas la guerre.
La guerre est la principale donnée de départ. Ensuite, je dois dessiner les forces en présence. Le gouvernement provisoire, les cadets, les hommes d'affaires, les propriétaires, les conciliateurs que sont les Mensheviks et les SR. Il faut aussi que je donne sa place à l'organisation de Martov, les Mensheviks internationalistes. Ceux-là sont assis entre deux chaises. Comme le gouvernement provisoire, mais en plus pathétique. Après tout, Martov a été dans le passé un grand socialiste. Il faudra que j'explique comment, sans aucune constituante, le gouvernement provisoire a créé un conseil de la République sans République. Comment tous les réactionnaires ont regretté l'échec de Kornilov. Et en face, les ouvriers, les soldats avec leurs organisations, les soviets, les comités d'usine, où les bolcheviks sont devenus majoritaires. Eux seuls ont répondu à la triple exigence du peuple. La paix, la terre, la liberté.
10 days that shook the world. 10 jours qui ébranlèrent le monde, de John Reed, adapté par Michel Sidorov. Avec Pierre-Marie Baudouin, John Reed, Flora Brunier, Louise Bryant, Jérôme Quintard, Léon Trotsky, Alan Wenger, Eugène Debs, Nicole Sigal, Mrs. Debs, Julien Barret, Albert Rhys-Williams, Thibaut Mulot, l'orateur bolchevique. Musique originale, Sylvain Cassap, interprété par Jason Meyer, Séverine Morfin, Anaïs Moreau, Émeric Avis, Fidel Fourneron, Niels Cassap, Arnaud Cuisinier et César Carcopino. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Dali Yaha, Mathieu Leroux, Olivier Dupré, Benjamin Vignal. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov.
pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Guirec à Montpellier, Canassu, à Toulouse. Donc, bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.